VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Nouveau massacre au Burkina Faso. Des assaillants armés ont exécuté les hommes samedi dernier dans un marché du village de Silgadji, province du Soum, dans le nord du pays. Après les avoir séparés des femmes présentes sur place, lesquelles ont été sommées de quitter la localité. C'est ce qu'ont indiqué ce mardi des sources locales dans cette région régulièrement ciblée par des attaques djihadistes. Le bilan de l'attaque est impossible à établir dans l'immédiat, mais plusieurs témoignages évoquent près de 50 morts. Selon les habitants qui ont fui le secteur, les auteurs du massacre seraient toujours dans les environs de Silgadji et du village voisin de Nagere. Les forces de défense et de sécurité essaient de se rendre sur les lieux, mais les policiers et militaires procèdent avec prudence, vu que les accès à ces villages ont vraisemblablement été piégés avec des mines artisanales, souligne une source sécuritaire. Ce massacre intervient moins d'une semaine après l'attaque contre les villages du Nagraogo et Alamo, un peu plus au sud, dans la province de San Matenga. Les assaillants avaient alors tiré dans le marché, tuant 36 personnes. Tous des civils. Combat anti-djihadiste au Tchad. 6 soldats tchadiens ont été tués lundi dans une embuscade tendue par le groupe djihadiste Boko Haram autour de l'île de Tétéroa, située sur le lac Tchad. Depuis plusieurs mois, les attaques djihadistes se sont intensifiées autour de cette vaste étendue d'eau, truffée d'îlots et de marécages partagés par le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. Depuis le début de l'année, le bilan est particulièrement lourd côté tchadien. Et toujours concernant la lutte contre les djihadistes dans le Sahel, la France a exhorté les États-Unis lundi à maintenir leur soutien militaire aux efforts anti-djihadistes de Paris dans la sous-région, sans toutefois recevoir de garantie de la part de Washington. Face aux attaques répétées des djihadistes et à leurs exactions contre les civils, les populations du Sahel se posent de plus en plus des questions sur l'efficacité des forces étrangères ou internationales déployées sur le terrain. Écoutez la réaction de la politologue Niagale Bakayoko, présidente de l'African Security Sector Network, spécialisée dans les questions de sécurité dans la région du Sahel.
Il est évident que pour ces populations, elles ne voient pas en termes de protection ce qui leur est apporté. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est absolument essentiel qu'il y ait une redéfinition du discours, de la communication des différentes missions. La MINUSMA a très clairement un mandat et c'est son premier objectif de protection des civils. Il faut que cela soit davantage mis en avant, sans doute. Et pour ce qui est des forces internationales comme l'opération Barkhane ou des forces armées locales, il faut que les populations aient absolument le sentiment que leur mission première est de les protéger de tout ce qui les menace, que ce soit des groupes d'autodéfense, que ce soit des groupes criminels très présents dans la zone aussi, que ce soit des groupes rebelles ou également, bien sûr, des groupes djihadistes.
La politologue Niagale Bakayoko, présidente de l'African Security Sector Network, au micro de Salem Salomon Fekadou. Au Mali, la justice malienne a ordonné ce mardi la mise en liberté provisoire du général Amadou Sanogo, meneur d'un coup d'État en mars 2012 et détenu depuis 6 ans pour l'assassinat présumé de 21 soldats anti-putschistes après son coup de force. La cour d'appel de Bamako a également décidé la mise en liberté provisoire de la douzaine de co-détenus d'Amadou Sanogo. L'ex-leader putschiste va recouvrer la liberté alors que l'armée malienne est soumise à la pression des attaques djihadistes qui ont fait des centaines de morts dans ses rangs ces derniers mois. La décision de la cour était attendue comme susceptible de désamorcer de possibles tensions que causerait une éventuelle reprise du procès. Et puis, le président du Bénin, Patrice Talon, est en visite à Washington, où il doit rencontrer notamment des responsables d'institutions financières internationales. Le chef de l'État béninois est accompagné, entre autres, par son ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbe-Nancy.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique centrale maintenant, République démocratique du Congo, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a déploré à Kinshasa que l'armée et d'autres agents de l'État congolais commettent encore la plupart des violations des droits de l'homme en RDC. Je lance mon appel à l'État pour que ces violations cessent, a déclaré hier l'ex-présidente du Chili au dernier jour de sa visite en RDC. Madame Bachelet a réclamé des mesures pour endiguer les exactions commises par l'armée nationale congolaise en particulier, dans un entretien à la radio onusienne Okapi. La haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a aussi rencontré le président Félix Tshisekedi, investi à la tête de l'État congolais il y a un an, le 24 janvier 2019. République centrafricaine, rien ne m'empêche d'être candidat. Déclaration hier de l'ancien président centrafricain François Bozizé au sujet de l'élection présidentielle de 2020 dans le pays. L'ex-chef de l'État rentré récemment d'exil tenait sa première rencontre avec la presse. Les détails avec Bagassi Koura.
Rien ne m'empêche selon les textes officiels. Cela dépend de mon parti. C'est le congrès qui désigne les candidats, a fait savoir M. Bozizé sans donner plus de détails sur ses intentions en moins d'un an de la présidentielle prévue en décembre. L'ex-chef de l'État est toujours sous le coup des sanctions des Nations Unies pour son rôle dans la crise de 2013, une crise marquée par de violents affrontements entre des populations chrétiennes et musulmanes. Il est accusé d'avoir soutenu des milices anti-Balaka. Les événements concernant les anti-Balaka se sont déroulés en mon absence et tout le monde le sait, s'est défendu l'ancien chef de l'État, précisant qu'il allait demander aux Nations Unies que son cas soit étudié pour mettre fin aux sanctions qui pèsent sur lui. Revenu en Centrafrique, François Bozizé a demandé solennellement pardon pour, je cite, toutes les erreurs commises et tous les torts commis aux uns et aux autres et qui auraient pu résulter de mon action à la tête du pays. Le 14 janvier, l'ancien chef de l'État avait été reçu par le président Faustin Archange Touadéra, probable candidat à sa réélection. Un tête-à-tête qui n'a pas complètement dissipé les tensions entre le parti de François Bozizé et la majorité présidentielle.
Conflit en Libye, le Conseil de sécurité de l'ONU discute d'un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu permanent en Libye et demandant au secrétaire général des propositions pour la surveillance de cette trêve, incluant la possibilité de contribution d'organisations régionales, selon le texte obtenu lundi par l'AFP. Une réunion du Conseil de sécurité sur la Libye est prévue demain mercredi, mais plusieurs diplomates restent dubitatifs sur une adoption dès ce jour-là. Il s'agirait de la première résolution sur la Libye, approuvée par le Conseil de sécurité depuis le lancement le 4 avril d'une offensive par les troupes du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, pour s'emparer de Tripoli, où siège le GNA, le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU. Actualité américaine maintenant, ici à Washington, les avocats du président Donald Trump ont tenté lundi de reprendre l'offensive après les révélations explosives d'un ancien conseiller de la Maison-Blanche qui ont fragilisé la défense du président américain dans son procès en destitution devant le Sénat. La défense et les avocats du chef de l'exécutif se sont aussi lancés dans une attaque en règle contre l'ancien vice-président démocrate Joe Biden. Le point avec Jean-Roger Bion.
Dans sa plaidoirie, la défense de Donald Trump a affirmé que la destitution était une arme thermonucléaire trop dangereuse pour s'appliquer en l'absence de crime au sens pénal du terme. Le célèbre constitutionnaliste Alan Dershowitz, dernier à plaider lundi, a fait valoir qu'il n'y a pas eu de pression sur Kiev ou de donnant-donnant. Une stratégie fragilisée par les révélations de l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton. Dans un livre à paraître prochainement, M. Bolton affirme que Donald Trump lui a confié en août ne pas vouloir débloquer l'aide militaire destinée à l'Ukraine sans enquête sur les Biden. « Je n'ai jamais dit ça à John Bolton », a démenti le locataire de la Maison-Blanche en accusant son ancien conseiller, limogé en septembre, de vouloir vendre son livre. Les avocats de Donald Trump ont aussi tenté de démontrer qu'il était dans son droit en s'inquiétant d'une possible corruption des Biden en Ukraine. L'ancienne procureure de Floride, Pam Bondi, a relevé qu'Hunter Biden avait gagné des millions de dollars en siégeant au conseil d'administration du groupe gazier ukrainien Burisma, au moment où son père, alors vice-président de Barack Obama, était chargé de la politique américaine dans ce pays. Elle a également suggéré que M. Biden avait obtenu le limogeage du procureur général ukrainien, alors chargé de la lutte anticorruption, pour protéger l'employeur de son fils.
Et pour terminer, la Cour suprême des États-Unis a donné lundi son feu vert à une mesure emblématique du durcissement de la politique migratoire des États-Unis. L'arrêt de la plus haute instance judiciaire du pays autorise l'administration Trump à refuser d'octroyer un permis de séjour à tout immigré qu'elle juge susceptible de représenter à l'avenir une charge pour les autorités fédérales. Merci de votre attention.